Le Seigneur dans cette église où je l'ai connu, où je continue à grandir, et c'est une grâce et une joie pour moi de me tenir devant vous pour qu'ensemble nous puissions partager autour de la parole. Je bénis le Seigneur pour cette opportunité, pour cette grâce. Je bénis aussi le Seigneur pour la vie de ses serviteurs qui nous donne le modèle, mais qui nous donne aussi l'occasion de servir Dieu. Et ce qui est intéressant dans cette opportunité qu'il nous donne, c'est que non seulement ils nous donnent l'opportunité, mais ils sont là avec nous pour nous accompagner, pour nous apprendre, pour nous encourager. Que Dieu bénisse ses serviteurs. Aujourd'hui, nous allons continuer avec notre grand thème, transformer pour transformer. C'est le grand thème de l'année. Et l'un des sous-thèmes de ce grand thème, c'est la transformation en profondeur. Notre thème d'aujourd'hui, c'est l'impact de la transformation en profondeur sur base de l'exemple de la vie du prophète Daniel. L'impact de la transformation en profondeur, exemple de la vie du prophète Daniel. Parler de Daniel, c'est d'abord parler du livre de Daniel. Le livre de Daniel se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un livre assez riche, mais aussi assez complexe. Parce que le livre de Daniel est à la fois prophétique et contient plusieurs prophéties. Il est à la fois littéraire, parce qu'on y trouve plusieurs informations historiques, mais il est à la fois apocalyptique. Qu'est-ce que j'entends par là? C'est comme, il est considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien Testament. La raison est simple, c'est parce que comme dans l'Apocalypse, dans le livre de Daniel, on trouve plusieurs images, on trouve un langage codé qui est souvent difficile et complexe. Parler de Daniel, c'est aussi parler du personnage de Daniel, la personne même de Daniel. Et c'est la personne de Daniel qui sera, puisque le livre, l'objet de notre méditation. Nous allons étudier ensemble la vie de Daniel dans la perspective de notre grand thème, transformer pour transformer. Pourquoi étudier la vie de Daniel? Parce que transformer pour transformer, quelque part, résume aussi la vie du prophète Daniel. Daniel a été transformé et Dieu l'a utilisé pour transformer. Et c'est ce que nous allons ensemble étudier. Ce qui frappe dans l'histoire du prophète Daniel, c'est de voir comment Dieu a guidé sa vie. Dieu l'a pris de quelque part pour faire de lui une personne nouvelle. Et le message que ça nous donne, c'est que derrière notre transformation, il ne s'agit pas simplement de nous. Mais il y a quelque chose que Dieu veut faire au travers de nous. Il y a des choses qui nous dépassent que Dieu veut faire au travers de nous. Des grandes choses. C'est pourquoi il choisit de nous transformer. Lisons ensemble Daniel, le premier chapitre, les versets 1 à 7. Nous lisons, la troisième année du règne de Josachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Josachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles au pays de Shinéa, dans la maison de son Dieu, et il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef des eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël, de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi, et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Verset 5, le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années, au bout desquelles ils seraient au service du roi. Il y avait parmi eux, d'entre les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azariah. Verset 7, le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azariah, celui d'Abednego. Amen. Amen. Transformer pour transformer. La transformation en profondeur du prophète Daniel. Le pasteur nous a dit plusieurs fois, en parlant de ce thème, que pour transformer, pour être un agent de transformation, il faut d'abord que nous-mêmes nous soyons transformés. Et j'aime une image particulière dans la parole de Dieu, c'est l'image des ustensiles, des vases. Tous les ustensiles ne sont pas utilisés de la même manière. Mais tous les ustensiles ont un point en commun. Pour devenir un vase, pour devenir un ustensile, on prend le temps de former cet ustensile-là, former ce vase-là, le façonner. Et souvent, la qualité de l'ustensile dépend du temps qui a été pris pour former cet ustensile, pour former ce vase-là. Et c'est ce que le message de Daniel veut nous donner. Notre transformation, la qualité de notre transformation, la profondeur de notre transformation décide de la profondeur de la manière avec laquelle Dieu va nous utiliser pour transformer. En d'autres termes, si tu me dis comment Dieu t'a transformé, si tu me dis ce par quoi Dieu t'a fait passer pour faire de toi une personne nouvelle, je serai en mesure de te dire comment est-ce que Dieu va t'utiliser. À quelle mesure Dieu va t'utiliser? Jusqu'où Dieu va t'utiliser? Auprès de quel type de personne Dieu va t'utiliser? Dieu ne fait jamais rien au hasard. Il nous transforme parce qu'il y a un plan derrière. Méditons ensemble comment est-ce que Dieu a transformé le prophète Daniel. La première chose que Dieu va utiliser pour transformer Daniel, c'est le déporter. Dieu va déporter Daniel de Jérusalem jusqu'à Babylone. La déportation, pour ceux qui peuvent s'imaginer ce que ça signifiait pour Daniel, ça signifiait être déraciné. Ça signifiait perdre des certitudes. Quitter d'un endroit où on est en sécurité pour aller dans un endroit où on est en insécurité. Quitter d'un endroit où on connaît tout, où on maîtrise tout, pour aller dans un endroit où on ne maîtrise rien. Et Dieu, quand il veut nous transformer, l'un des moyens qu'il utilise, c'est de nous faire quitter notre zone de confort. Quand Dieu veut nous transformer, il utilise le déplacement. Il nous emmène dans un endroit, il nous fait passer par une situation qui nous fait sortir de notre zone de confort. Tout à l'heure, j'ai été édifié en écoutant le pasteur qui parlait de notre frère Stéphane, qui décide de quitter un endroit de confort pour aller dans un endroit où il y a plusieurs incertitudes. Et souvent, Dieu fait ça. C'est des choses où on se rend compte que ce n'est pas là où j'ai envie d'aller. Ce n'est pas l'endroit où j'ai envie d'être. Mais Dieu a décidé que je sois dans cet endroit-là. Il y a des personnes qui n'auraient pas voulu être ici en ce moment. Il y a des personnes qui ont demandé visa, ça n'a pas marché. Redemande de visa, ça ne marche pas. Et tu te rends compte que non, il y a quelque chose derrière. Je pense que Dieu veut que je sois ici. Et si Dieu a décidé que tu sois dans un endroit, c'est qu'il y a quelque chose que tu veux faire dans ta vie, dans cet endroit. Le problème, c'est qu'on ne comprend pas toujours tout rapidement. On ne sait pas pourquoi Dieu permet qu'on soit dans un endroit. On ne comprend pas toujours très vite la finalité. Seigneur, pourquoi tu permets que je sois ici? Seigneur, pourquoi tu permets que je sois dans cette école et pas dans cette école où je voulais aller? Seigneur, pourquoi tu permets que je sois dans cette entreprise et pas dans cette entreprise où je voulais aller? Quand Dieu veut nous transformer, il nous envoie dans un endroit que lui-même a choisi. Un endroit où il veut nous transformer. Je suis étonné en lisant Luc chapitre 4, verset 1. La Bible nous parle de Jésus. Après qu'il ait reçu l'approbation du Père, voici mon Fils, en qui je mets toute ma confiance. La Bible dit, l'Esprit emmena Jésus où? Dans le désert. Le désert où il fait chaud le matin, où il fait très froid la nuit. Le désert où on n'a pas suffisamment à manger ni à boire. Seigneur, pourquoi tu m'emmènes dans cet endroit? Pourquoi tu me fais passer par cette situation? Peut-être que derrière cette situation, peut-être que tu pries pour que Dieu t'emmène ailleurs. Peut-être que tu pries pour que Dieu te fasse sortir de cette situation. Mais peut-être que dans cette situation, il y a Dieu derrière. Il y a Dieu qui veut te transformer. J'ai plusieurs fois raconté ici mon expérience. Avant de venir en Chine, j'ai fait un an. Un an où j'apprenais l'anglais. Parce que je devais aller aux États-Unis. Mais quand moi-même je prends le recul, je me rends compte que c'est Dieu qui a décidé que je vienne en Chine. Sinon, comment expliquer que mon père vienne en Chine, en mission, il est convaincu par la Chine, il rentre auprès de ma mère, qui n'est pas d'accord, et Dieu permet que ma mère vienne aussi en Chine, et quand elle retourne, elle est d'accord, elle dit, mon fils ira en Chine. Comment expliquer ça? Il y a Dieu derrière. Il y avait le plan de Dieu derrière. Ah Seigneur, donne-nous d'avoir la bonne attitude quand tu nous dis d'aller dans un endroit, même si nous ne voulons pas y aller, même si nous ne sommes pas convaincus. La seule chose dont nous avons besoin, c'est de la certitude que toi, tu es dedans. Amen. C'est la certitude que ça, c'est ton plan pour ma vie.
Amen.
Dieu utilise un endroit particulier pour nous transformer. La deuxième chose que Dieu va utiliser pour transformer Daniel, il va faire passer, il va apprendre à Daniel à servir. La Bible dit que Daniel était originaire d'une famille noble. Daniel était quelqu'un qui avait un standing. Mais Dieu l'envoie dans un endroit où il va servir où il va servir le roi de Babylone. Donc, une personne qui avait des privilèges, une personne même qui avait des serviteurs, se retrouve maintenant dans un endroit où elle doit elle-même servir. Et ce n'est pas le genre d'endroit où tu peux décider, où tu dis, non, je suis en train de servir, mais je décide comment je vais servir, non. Dieu permet, quand il veut nous transformer, qu'on soit dans une situation, qu'on soit dans un cadre où on est en train de servir les autres. Où tu sais, tu n'as pas ton mot à dire. Un serviteur n'a pas son mot à dire. Souvent, nous avons une haute estime de nous-mêmes. On se dit, non, moi je suis très, très soumis à Dieu. Moi, j'écoute là. Quand Dieu me dit fais, je fais. Mais la réalité est tout autre souvent. Et Dieu utilise souvent la soumission envers une personne pour nous montrer à quel point nous ne sommes pas autant soumis que nous le pensons. Une des manières pour Dieu de nous bénir, de nous transformer, c'est de nous faire être soumis à quelqu'un. Quelqu'un qu'on ne peut pas manipuler. Quelqu'un qui est capable de nous faire mettre nos propres projets de côté pour servir lui ou elle ses projets. Le service. Quand Dieu veut nous transformer, il permet que nous soyons sous l'autorité de quelqu'un. Ceux qui ont étudié la parole de Dieu, certains pensent même que Daniel, quand il est arrivé, parce qu'il était sous l'autorité d'un eunuque, certains pensent même qu'il est devenu eunuque. Et pour ceux qui connaissent un peu ce que ça signifie d'être eunuque, ça signifie perdre sa masculinité. Ça signifie abandonner ses plans. Un jeune homme qui avait sûrement ses plans pour son avenir, mais se retrouve en train de servir quelqu'un. Il n'a pas le choix. Il doit servir. Il doit oublier ses propres plans. Ah, souvent Dieu pour nous bénir, souvent Dieu pour nous transformer, il permet qu'on soit sous l'autorité de quelqu'un. C'est vraiment un grand moyen de transformation que Dieu utilise. J'aime l'exemple d'Élisée, 2 Rois, chapitre 3, verset 11. Pour ceux qui connaissent l'histoire d'Élisée, Élisée, c'était pas n'importe qui. Élisée était issu d'une famille noble. Il avait des biens. Avant son appel, il avait des biens. Et quand Élie est venu le voir, Élie a posé son manteau sur lui, il a tout vendu et il a choisi de suivre Élie. Écoutez ce que la parole de Dieu dit au sujet d'Élisée. Il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Donc, on connaissait maintenant que Élisée, lui, il verse l'eau sur les mains d'Élie. C'était ça son travail. Il ne faisait que servir Élie. J'aimerais encourager quelqu'un qui est en train de servir dans la vision d'une autre personne. Qui est sous l'autorité de quelqu'un. Et tu ne comprends pas, Seigneur, pourquoi est-ce que je dois servir cette personne? Peut-être que derrière, il y a Dieu. Peut-être qu'il y a Dieu qui est en train de former en toi certaines choses. Peut-être qu'il y a Dieu qui est en train de te transformer quelque part. Si tu dois servir, sers de tout ton cœur. Même si tu as envie d'aller à gauche, mais parce que tu es sous l'autorité de quelqu'un, on te dit, va à droite, va à droite. Sers de tout ton cœur. Et ceux qui connaissent aussi l'histoire d'Élie, Élie n'était pas toujours quelqu'un de facile aussi. Mais Élisée, ce qui me plaît avec Élisée, il est resté. Il est resté là, à servir. Quand Élie lui dit, écoute, reste ici. Ne me suis pas, reste ici. Élisée dit non. L'Éternel est vivant. Ton âme aussi est vivante, on est ensemble. Je continue la marche. Je continue à te suivre. Souvent, quand nous servons, dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a un souci, dès qu'il y a un conflit, on dit, moi je me retire. Mais quand on persévère dans le service, il y a une transformation qui s'opère. Il y a une transformation qui s'opère. Souvent, on ne comprend pas toujours pourquoi. Mais il y a un plan de Dieu derrière. Que Dieu nous donne la force de persévérer dans le service. Que Dieu nous donne de nous attacher aux personnes où Dieu, vers lesquelles Dieu nous a envoyés. Tu sais que c'est Dieu. Dieu t'a dit, sers cette personne. Sers-la de tout ton cœur. Le service. La troisième chose, et là, peut-être je vais passer un peu de temps parce que c'est très important. La troisième chose par laquelle Dieu a transformé Daniel, c'est par de nouvelles connaissances. La Bible dit qu'on devait leur enseigner les lettres et la langue des Chaldéens. Pour apprendre de nouvelles choses, il faut de la discipline. Pour apprendre de nouvelles choses, il faut aussi de l'humilité. Souvent, quand Dieu veut nous transformer, il permet qu'on soit exposé à des nouvelles connaissances. Des choses qu'on n'a pas forcément envie d'apprendre. Mais Dieu sait que par rapport au plan qu'il a pour nous, on doit apprendre ça. Mais souvent, ce qui arrive, c'est qu'on ne sait pas pourquoi Dieu permet qu'on puisse apprendre ces choses. Donc, on a tendance à vouloir les négliger. Mais Dieu le sait. Dieu sait ce qu'il est en train de faire dans nos vies. La transformation, ce n'est pas seulement dans la prière. La transformation, c'est aussi apprendre des choses. Il y a des connaissances qui sont capables de faire de nous des personnes nouvelles. Il suffit que tu aies cette connaissance-là. Automatiquement, ça te transforme. Et Dieu, quand il veut nous transformer, il permet qu'on puisse apprendre. Et ce que j'aime avec Daniel, c'est que Daniel n'était pas n'importe qui, même en termes de connaissances. On a lu le passage. Les jeunes hommes qui devaient venir, c'était des jeunes hommes instruits. C'était des jeunes hommes qui avaient déjà de la sagesse, qui avaient déjà des connaissances. Mais Daniel a été prêt à s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Quand on a l'impression qu'on a déjà des choses, ou quand on a des choses, c'est difficile d'apprendre. C'est difficile de s'humilier à nouveau pour apprendre. C'est difficile de se discipliner à nouveau pour apprendre. C'est l'une des choses qui fait qu'en Chine, souvent on n'a pas envie d'apprendre le chinois. La raison, c'est parce que quand tu apprends le chinois, c'est comme si tu redeviens enfant. Tu dois apprendre à. Tu dois réapprendre à écrire. Et souvent, Dieu t'emmène en Chine, tu dois apprendre le chinois. Mais quand tu vois ce que ça demande comme sacrifice, comme discipline, comme humilité, tu dis, Seigneur, vraiment. Mais si Dieu, tu sens dans ton cœur que Dieu veut que tu apprennes ces choses, apprends-les. Tu ne sais pas ce que ça te réserve demain. Vaut mieux avoir des connaissances maintenant, qu'on n'utilise pas plus tard, que de se retrouver dans une situation où tu as besoin de ces connaissances, que tu peux apprendre gratuitement, mais que tu n'as pas pris le temps d'apprendre. Acte 18, verset 24 à 28. Il y a un homme qui m'impressionne. Il s'appelle Apollos. Si on avait dit la moitié des choses qu'on a dit sur Apollos, sur moi, je ne sais pas si je serais encore prêt à apprendre. Je sais que vous êtes prêts à apprendre. Je parle de moi. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie, homme éloquent, versé dans les Écritures, vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne le Seigneur. Toutes ces qualités-là. Mais la Bible dit, bien qu'il ne connût que le baptême de Jean. Donc, il avait déjà des connaissances. Dieu l'utilisait déjà, mais il y avait quelque chose qu'il devait encore apprendre. Et je bénis le Seigneur parce qu'il a trouvé des personnes qui étaient prêtes à lui apprendre des choses nouvelles. Et lui aussi, il s'est ouvert pour pouvoir apprendre. Ah Seigneur, c'est difficile quand on connaît certaines choses, ou quand on pense connaître, de s'ouvrir à nouveau à la connaissance. Si l'apôtre Paul était capable de dire, les choses que je connais, je les mets d'abord derrière, je continue la course. Si l'apôtre Paul était capable de dire à ses enfants spirituels, apportez-moi encore les livres, apportez encore. J'ai des choses encore à apprendre. En préparant ce message, je me suis souvenu de certaines choses. Papa Eric s'en souviendra. Certains programmes à l'église, je pense que c'était au Grand PICF. Certains programmes où on était conviés et nous on venait, on s'asseyait. Et puis je voyais le pasteur aussi venir s'asseoir avec nous pour faire le même programme. Je dis, mais est-ce que le pasteur a besoin de ces choses-là? Est-ce que le pasteur a besoin encore d'apprendre ces choses-là? Voilà comment Dieu l'utilise déjà. Quand Dieu veut nous transformer, il permet qu'on soit exposé à de nouvelles connaissances. Malgré déjà ce que nous avons. Et notre transformation dépend de notre ouverture à ces connaissances-là. C'est pourquoi les mamans vont dire aux jeunes filles, venez participer à Adassa. Vous ne savez pas ce qui vous attend devant. Nous avons été aussi jeunes filles. La difficulté que nous avons, c'est que souvent on regarde seulement à maintenant. On regarde seulement à maintenant. C'est-à-dire, j'ai déjà ce dont j'ai besoin. Je pense que ça me suffit. Mais les personnes qui sont éveillées savent que devant, tu vas rencontrer certains défis, certaines difficultés. Tu dois te préparer maintenant. C'est maintenant que tu dois apprendre. C'est maintenant que tu dois apprendre comment tenir un foyer. C'est maintenant que tu dois apprendre comment avoir une vie de prière. C'est maintenant. J'ai été édifié quand j'étais encore jeune fiancé, par l'exemple d'un homme. Ça m'a beaucoup encouragé quand j'étais fiancé. Au fait, cet homme, il savait qu'il allait bientôt se marier. Et il s'est résolu à apprendre. À apprendre tout ce qu'il pouvait trouver comme information sur la femme. Donc, il a lu tous les livres qu'il pouvait trouver sur la femme. Il voulait comprendre la femme, comment la femme agit, comment la femme pense, comment elle s'exprime et tout ça. Et quand il arrivait dans le mariage, il était bien. Et quand sa femme s'exprimait d'une certaine manière, dans son cœur, il était en train de rire. Il dit non, ça c'est le livre numéro 2. Quand elle agit d'une certaine manière, elle dit non, ça c'est le livre numéro 15 que j'ai lu. Je sais qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à cette situation. La connaissance. Que dit de l'histoire du peuple d'Israël? Le peuple d'Israël s'est retrouvé en Égypte en train de construire les édifices des Égyptiens. Et pendant qu'ils étaient en train d'apprendre cette technologie, ils ne savaient pas. Mais Dieu savait que c'est cette même technologie qu'ils allaient utiliser pour bâtir le temple de Dieu. Souvent, Dieu permet qu'il y ait des connaissances gratuites qui vont nous servir plus tard. Mais il permet qu'on soit exposé à cela pour qu'on puisse s'ouvrir et apprendre. La connaissance est un moyen de transformation. Je termine avec moi-même mon propre exemple concernant la connaissance. Il y a quelques années, je commençais à faire le doctorat. Et sincèrement, je n'avais pas envie de faire le doctorat. Je n'avais pas du tout envie. Mais vraiment pas du tout. Et mon père biologique, Pierre Gagne, il insistait. Il dit, mon fils doit faire le doctorat. Moi, je ne suis pas arrivé au doctorat, il doit faire le doctorat. Il dit, papa, moi, je n'ai pas envie de faire le doctorat. Et pour ceux qui connaissent le pasteur Berger, ils savent que le pasteur nous encourage à aller le plus loin possible. Et le pasteur aussi m'a encouragé. Termine. Ah, c'était difficile. Mais par la grâce de Dieu, on a terminé. Mais ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a certaines situations où je me retrouve aujourd'hui, et puis je commence à réfléchir. Je dis, mais si je n'avais pas fait le doctorat? Quand j'étais rentré en 2019 pour faire le visa, la compagnie qui m'emploie m'a appelé pour dire, on doit commencer les démarches pour ton visa. Tu sais, ce qui facilite le visa ici en Chine, c'est d'avoir un grand diplôme. Est-ce que tu as le doctorat? Et je me suis surpris en train de courir à la maison pour chercher le doctorat, pour aller photocopier et puis envoyer. Et quand j'étais en train de photocopier pour envoyer, l'esprit m'a mis à cœur, tu comprends maintenant. Tu comprends maintenant pourquoi tu devais faire le doctorat. Ta fiancée est maintenant en Chine. Tu es en train de courir pour prendre le même doctorat là que tu ne voulais pas faire pour aller envoyer, pour faire les démarches. Même dans le travail aujourd'hui, il y a certaines tâches qu'on me demande. Et quand je fais ces tâches-là, je me rends compte que c'est l'expérience du doctorat. C'est ces connaissances, c'est cette persévérance que j'ai apprise en faisant le doctorat qui me donne aujourd'hui de pouvoir produire du résultat. Si Dieu nous parle ainsi, c'est que quelqu'un doit s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Amen. Quelles que soient les choses que tu connais déjà, tu arrives dans un environnement où il y a certaines nouvelles choses. Ne t'attache pas simplement à ce que tu as déjà. Ouvre-toi à ce qu'il y a ici. Amen. Tu ne sais pas où et comment et quand Dieu va utiliser ces connaissances-là pour transformer d'autres personnes. Les nouvelles connaissances. L'autre moyen que Dieu va utiliser pour transformer Daniel, c'est au travers de quelque chose d'assez spécial. C'est des nouvelles habitudes. La Bible dit que le roi leur assigna chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Donc même en termes d'alimentation, il devait changer ses habitudes. Il devait apprendre à faire des choses qu'il n'a jamais faites. Et pour s'adapter à de nouvelles habitudes, il faut une flexibilité. Il faut une capacité d'adaptation. Il faut aussi du contentement. Souvent, on arrive en Chine, on veut que tout soit comme au pays. Alors que Dieu veut qu'on s'ouvre à de nouvelles habitudes qui vont nous faire du bien. On voit que, quand je suis arrivé en Chine, j'ai vu des mamans de 80 ans courir derrière le bus. Et je me dis, mais comment? Et on m'a appris que dans leur alimentation, ils mangent des choses qui leur permettent d'être en bonne santé. Et quand on arrive en Chine, par exemple, on te dit, à la fin du repas, prends de l'eau chaude. Tu dis, non. Moi, au pays, je suis habitué à prendre de l'eau bien glacée à la fin du repas. Envoyez-moi du jus bien glacé, de l'eau bien glacée. Alors qu'il y a des nouvelles habitudes auxquelles il faut s'ouvrir. On te dit, fais du sport. Tu ne sais pas pourquoi Dieu veut que tu adoptes ces nouvelles habitudes. Mais tu sais que Dieu est en train de t'encourager dans cette direction. Ouvre-toi à ces nouvelles habitudes. Mange les légumes, maman dit. Tu dis, non, moi chez moi, voilà comment on mange. Apprends à manger avec les couverts. Deux cuillères, deux fourchettes, deux assiettes. Tu ne sais pas ce que Dieu est en train de préparer. Le lendemain, plus tard, tu te retrouves dans certains milieux où il faut manger avec deux cuillères, deux fourchettes, deux assiettes, et tu n'as pas appris. Simplement parce que tu t'es attaché à tes habitudes que tu avais avant. Une des manières pour Dieu de nous transformer, c'est de nous faire adopter de nouvelles habitudes. Et souvent, ce que Dieu fait, c'est avant de nous amener à un certain niveau, il nous exerce aux habitudes de ce niveau-là. Il nous donne de nous exercer aux habitudes de ce niveau où on n'est pas encore arrivé. Malheureusement, des fois, nous réagissons comme le peuple d'Israël dans le désert. Exode 16, versets 1 à 3. La Bible dit que Dieu voulait leur apprendre une nouvelle manière de se nourrir. Il dit, je vais vous nourrir maintenant au travers des cailles et de la manne. Mais ils étaient en train de regretter ce qu'ils faisaient en Égypte. Il dit, en Égypte, on avait beaucoup de viande. En Égypte, on avait du pain. Pourquoi est-ce qu'on doit changer nos habitudes? Plutôt retourner en Égypte. Et c'est ce qui nous arrive souvent. Je parlais de ce passage à mon épouse qui est nutritionniste. Et elle me regardait avec les yeux ouverts comme ça. Parce que souvent, ce sont les personnes autour de nous qui remarquent certaines choses. Qui remarquent certaines habitudes que nous avons. Et qui doivent changer par rapport à ce à quoi Dieu nous appelle. Et ces personnes nous encouragent, tu dois changer ça. Tu dois adopter une nouvelle habitude par rapport à ça. Seigneur, aide-nous à nous ouvrir à de nouvelles habitudes. Parce que derrière, il y a ton plan. Il y a des choses que tu veux réaliser au travers de nous. Apprends à prier. Apprends à jeûner. Peut-être que tu ne fais pas face à certaines situations maintenant. Mais apprends à prier, apprends à gêner. Ces habitudes-là te seront utiles plus tard. Le dernier point concernant la transformation en profondeur de Daniel, c'est un point qui résume tous les points que nous venons de mentionner. La Bible dit que on a donné à Daniel et à ses compagnons de nouveaux noms. Et les nouveaux noms, un nouveau nom, ça signifie un changement d'identité. Un nouveau nom, ça signifie oublier toutes les choses du passé et s'ouvrir à devenir une nouvelle personne. Je n'ai jamais oublié une expérience que j'ai vécue il y a près de plus de 5 ans. Je faisais un stage dans une compagnie et nous sommes allés en mission au Ghana. Et à la fin du stage, celle qui était ma responsable m'a fait asseoir. On faisait comme un bilan de la mission et elle m'a dit des choses que je ne vais jamais oublier. Elle m'a dit, écoute, tu sais, je sais que tu es africain, mais tu travailles pour une compagnie chinoise. Et si tu veux évoluer dans ce milieu, il faut que tu oublies que tu es africain. Il faut que tu deviennes chinois. Il faut que tu te comportes comme un chinois. Il faut que tu apprennes à parler et à te comporter, à agir comme un chinois. Et dans mon cœur, j'étais en train de murmurer. J'ai dit, mais pour qui elle se prend? En fait, elle était en train de me donner une vérité. Elle était en train de me parler de transformation. Mais j'étais tellement attaché à moi, qui je suis, d'où je viens. Elle a dit quelque chose qui m'a même choqué. Elle dit, tu sais, quand tu voyages avec ta responsable, tu dois tout savoir. Dans notre culture, c'est comme ça. Elle dit, même où se trouvent les toilettes, tu dois savoir. Tu dois pouvoir dire à ton responsable, voici où se trouvent les toilettes. S'il te pose une question, tu dois pouvoir répondre. Et dans mon cœur, je disais non. Non. Elle était en train de me parler de transformation. Et souvent, l'une des choses les plus difficiles, c'est de nous séparer de ce à quoi on s'identifie. De ce à quoi on attache notre personnalité. Moi, je suis comme ça. Les gens de chez nous, on est comme ça. Les gens de chez nous, on fait les choses comme ça. Mais tout à l'heure, nous avons chanté « Brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît. » Ça signifie quoi? Ça signifie que Dieu même peut transformer notre identité.
Amen.
Ça signifie qu'on a ouvert, « Seigneur, tout, vraiment tout. Et c'est ce qui se résume dans le changement de nom entre Daniel et Belshazzar. Ce qui me façonne dans l'histoire de Daniel, c'est que malgré toutes ces choses par lesquelles il est passé, il avait une attitude spéciale, une attitude particulière. On dit souvent, l'important n'est pas ce qui nous arrive, l'important c'est comment on réagit. Et Daniel, malgré le fait qu'il ait été déporté, malgré le fait qu'il soit devenu esclave, malgré le fait qu'il ait été transformé, qu'il ait perdu son identité, il a quand même gardé le Seigneur dans son cœur. Il a continué à faire confiance à Dieu. Daniel 1, verset 8, nous dit, « Daniel résolut dans son cœur de ne pas se souiller par les mets du roi, par le vin dont il buvait, et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. » Daniel, de quel Dieu tu parles? Où était ton Dieu quand tu as été déporté? Où était ton Dieu quand on t'a pris de ta position de privilège pour faire de toi un esclave? Où était ton Dieu quand on a changé ton identité? De quel Dieu tu parles? La transformation en profondeur, c'est de faire confiance au Seigneur. Quel que soit ce par quoi il nous fait passer. Et à cause de son cœur, à cause de son attitude sur le chemin de la transformation, aujourd'hui nous avons le recul. Nous pouvons voir pourquoi Dieu faisait ces choses. Mais quand Daniel passait par ces différentes étapes, Daniel ne savait pas où il allait. Daniel ne savait pas ce que Dieu était en train de faire de sa vie. Mais il y a une chose qu'il a gardée, il a gardé la foi. Il a gardé la confiance en Dieu. Et la Bible dit, quand Dieu a vu son cœur, Dieu lui donna, à lui et à ses compagnons, l'intelligence, la sagesse. Et il lui a donné la grâce de pouvoir expliquer les visions et les songes. Quand Dieu voit que nous lui restons fidèles, quand Dieu nous voit qu'on continue à lui faire confiance, même quand on ne comprend pas où il nous emmène, Dieu pose sa main sur nous. Dieu nous touche de manière spéciale. Et Dieu commence à nous utiliser de manière spéciale. C'est le quatrième point de notre message, l'impact de la transformation de Daniel. L'impact final de toute transformation, c'est de donner la gloire à Dieu. C'est la gloire de Dieu. Et quand on voit tout le chemin par lequel il est passé, et son attitude en passant par ce chemin, on comprend pourquoi Dieu l'a utilisé autant. On comprend pourquoi Dieu l'a utilisé de manière si puissante. Daniel 2, versets 46 à 48. Alors le roi Nabuchodonosor tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets puisque tu as pu découvrir ce secret. » La finalité de la transformation en profondeur, c'est la gloire de Dieu. Qu'est-ce que signifie la gloire? La gloire, c'est que le nom de Dieu a du poids. Ça signifie que le royaume de Dieu s'étend. Quand nous ouvrons à la transformation, quand nous continuons à faire confiance à Dieu, Dieu commence à nous utiliser puissamment. Au travers de nos vies, celui qui était le roi le plus puissant à l'époque, il commence à rendre gloire à Dieu. J'aimerais préciser que le but de la transformation, ce n'est pas de nous rendre gloire à nous. Ça va arriver, ça fera partie du processus. Mais le processus, sinon, le but ultime, c'est la gloire de Dieu. Le but ultime, c'est que des personnes, en voyant nos vies, rendent grâce, rendent gloire au Seigneur. que des personnes se tournent vers le Seigneur. Daniel 4, verset 37. Maintenant, moi, Nabucodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux. De toutes les œuvres, dont toutes les œuvres sont vraies et les voies justes. Et qui peut abaisser ceux qui marchent avec orgueil. C'est le roi qui parle. Daniel 6, verset 25 à 27. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur la terre, que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre, c'est lui qui sauve, c'est lui qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Quand nous nous laissons transformer, voilà le résultat. La gloire revient à Dieu. Si Dieu a pu utiliser Daniel de cette manière pour atteindre ce résultat, c'est parce qu'il s'est laissé transformer. Imaginons ensemble que Daniel avait refusé d'aller à Babylone. Imaginons ensemble qu'il avait refusé de s'ouvrir à de nouvelles connaissances. Imaginons qu'il avait refusé de servir. Imaginons qu'il s'était corrompu. Ces choses-là ne seraient jamais arrivées. Mais Dieu cherchait quelqu'un. Dieu cherchait quelqu'un qui était capable de se laisser transformer afin qu'il l'utilise pour sa gloire.
Amen.
Et Daniel n'est qu'un exemple. Il y a plusieurs exemples dans la parole de Dieu. Dieu cherchait un homme pour amener sa gloire au niveau des païens. Il cherchait quelqu'un qui devait être instruit, capable de parler aux Philippiens, capable de parler aux Éphésiens, capable de parler aux Grecs. Quelqu'un qui avait de la connaissance, mais qui était capable de se laisser renouveler dans la connaissance. Quelqu'un qui avait de l'amour, quelqu'un qui était humble. Et Dieu a trouvé Saul, qui l'a transformé en Paul. Dieu cherchait une femme, parce qu'il avait besoin d'un serviteur appelé Samuel. Et il avait besoin d'une femme qui était suffisamment brisée, suffisamment transformée, pour porter un enfant dans son sein, et à juste après l'avoir sevré, donner l'enfant pour qu'il serve le Seigneur. Et Dieu a trouvé Anne. Il y a quelques années, Dieu aussi cherchait. La Chine a commencé à se transformer. Plusieurs personnes, à cause de l'essor économique de la Chine, venaient en Chine. Des étudiants, des diplomates. Et parmi ces étudiants, ces diplomates, il y avait des étudiants, des diplomates francophones. Mais en Chine, il n'y avait pas d'église francophone. Donc Dieu cherche. Dieu cherchait des apôtres. Et ces apôtres-là, ils devaient avoir la porte d'entrée. Il fallait que ces apôtres-là soient capables de rester sur le territoire chinois sans problème. Ah, il a trouvé le chemin de la diplomatie. Il fallait que ces apôtres-là soient capables de se laisser transformer pour servir Dieu d'une nouvelle manière, pas comme dans leur pays d'origine. Dieu fait les choses dans les détails. Dieu cherchait des apôtres qui étaient aussi pertinents scientifiquement, pour pouvoir accompagner les étudiants, les nombreux étudiants qui devaient venir en Chine. Dieu cherchait. Mais Dieu cherche aussi parce qu'il sait qu'en Chine, on est loin de sa famille. Il cherchait des personnes qui avaient suffisamment le cœur ouvert pour dire « Notre maison, c'est la maison de tout le monde. » Dieu savait qu'on a besoin en Chine de souvent retrouver un peu le goût du pays. Et Dieu a trouvé aussi des apôtres pour pouvoir le servir ici en Chine. Et nous bénissons le Seigneur pour la vie des apôtres de cette église. Ils se sont laissés transformer afin que nous puissions en bénéficier, afin que nos vies soient transformées. Autant nous nous réjouissons pour les apôtres, j'aimerais nous poser à nous-mêmes la question, à chacun de nous. Pourquoi est-ce que Dieu permet que tu sois ici aujourd'hui? Et pas ailleurs, là où tu voulais être. Il y a une raison derrière. Peut-être cette raison, tu ne la connais pas encore, mais il y a une raison derrière. Pourquoi Dieu permet que tu sois en train de servir quelqu'un? Alors que toi-même, tu as des projets. Mais Dieu permet que tu sois en train de servir dans le projet, dans la vision d'une autre personne. Je ne sais pas, mais à ta place, je suis excité. Parce que je suis en train de penser à ce que Dieu est en train de préparer à travers ta vie. Pourquoi est-ce que Dieu permet que tu apprennes ces nouvelles choses? Pourquoi est-ce que Dieu permet que tu appelles ces nouvelles habitudes? Il y a quelque part un plan derrière. Il y a un plan de Dieu derrière. Alors que la chorale s'avance et que nous allons chanter ce chant, brise-moi, façonne-moi, donne-moi la forme qui te plaît, j'aimerais qu'on puisse penser à tous ces aspects que nous venons de méditer. Seigneur, quand je dis brise-moi, façonne-moi, je suis en train de dire, je suis prêt à aller là où tu veux que j'aille. Je suis prêt à servir là où tu veux que je serve. Je suis prêt à apprendre ce que tu veux que j'apprenne. Je suis prêt à changer d'identité. Je suis prêt à devenir une nouvelle personne. Je suis prêt à ce que tu me transformes en profondeur. Pour qu'à la fin, ta gloire soit manifeste. Tu peux prendre la position qui te sied, tu peux te lever. Tu peux rester assis, tu peux te mettre à genoux. Je vais servir de tout mon cœur. Aide-moi. Donne-moi la forme qui te plaît. Ce n'est pas la forme que j'ai choisie, mais la forme que tu as choisie pour moi. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Mais si tu m'envoies, j'irai. Seigneur, c'est pas ce que j'ai envie de faire, mais si tu me demandes de le faire, je le ferai. Seigneur, je ne comprends pas tout. Je ne comprends pas la raison pour laquelle. merci pour ta fidélité. Merci parce que tu m'aimes tellement que même contre mon gré, tu permets que je passe sur le chemin de la transformation. Seigneur, merci de me transformer, de transformer mon frère, de transformer ma soeur en profondeur. Seigneur, ce soir, nous voulons te dire que nous te faisons confiance. Seigneur, nous n'avons pas déjà toute la compréhension de ce que tu vas faire, mais nous nous ouvrons à cette transformation. Nous nous ouvrons à ces connaissances. Nous nous ouvrons à ces nouvelles habitudes. Nous nous ouvrons à ce service. Ah Seigneur, je prie qu'en voyant le cœur de ton fils et de ta fille, tu mets ta main sur lui ou sur elle, comme tu l'as fait pour Daniel, et que tu commences à l'utiliser de manière spéciale, de manière puissante, afin que la gloire te revienne. Merci de faire de nous, par ta grâce, des instruments de ta gloire. Merci de nous faire passer par la transformation en profondeur, afin que nous puissions devenir ces instruments de transformation, Seigneur. C'est un privilège, c'est une grâce, roi des rois. L'œil n'a point vu, l'oreille n'a point entendu. Il n'est point monté dans le cœur de l'homme ce que tu vas faire au travers de chacun. Car toi seul revient de la gloire, au nom de Jésus. Amen.
Bénissons le Seigneur pour la vie de Pasteur Oscar et son épouse, Maman Blessing, qui est à la maison avec l'enfant. Et très rapidement, nous allons, je vais me présenter, je suis le frère Alpha, je suis congolais de Brazzaville. Et nous voulons accueillir ceux qui sont venus seulement aujourd'hui, vous êtes venus aujourd'hui seulement, ou encore vous êtes déjà venus un samedi, mais on vous a pas encore accueilli dans la salle comme ça, en plein culte. Juste lever votre main seulement, on va vous reconnaître, on va vous accueillir comme à la maison. Est-ce qu'on peut acclamer, encourager notre maman? Est-ce qu'on peut encourager notre maman? Elle va se présenter, elle vient d'où? Est-ce qu'elle fait un pécard? Voilà.
Madeleine Aligné, je viens du Tchad. Wow. Mon grand frère, l'ambassadeur, wow, c'est lui qui m'a introduit, qui m'a dit qu'il y avait un endroit où on parle de Dieu, où on loue Dieu. Donc c'est avec beaucoup d'honneur et de plaisir que bien sûr je viens partager avec vous. Je viens du Tchad. C'est pas la première fois que je suis en Chine. J'étais ici il y a déjà 30 ans. La Chine n'était pas exactement comme on la voit maintenant. Donc je bénis le Seigneur également pour me permettre de revenir. Je suis dans une formation de 3 mois à Beijing Tassu. Donc je crois que Dieu veut me transformer en profondeur.
Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus.
Et je suis vraiment très heureuse de me retrouver en famille aujourd'hui. Et vraiment, je vous bénis tous et merci beaucoup.
Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur pour la vie de maman Madeleine. Est-ce qu'on peut la saluer, ceux qui sont proches d'elle, de l'accueillir? Est-ce qu'on peut également encourager l'ambassadeur pour d'avoir des bons députés? Dieu est en train de transformer. Si un ambassadeur peut évangéliser, qu'on peut le faire moi. Est-ce que tu peux dire ça? Dis ça à ton voisin. Si un ambassadeur peut évangéliser, qu'on peut le faire toi. Est-ce qu'on peut encore acclamer Jésus parce que Dieu est bon, Dieu ne cesse de nous surprendre, de nous transformer. Amen. Et nous allons maintenant donner à Dieu. Vous savez, la Bible dit, apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Est-ce qu'on peut sortir ce qu'on a promis pour Dieu? La technique va nous aider avec le QR pour ceux qui veulent scanner. Nous allons donner à Dieu pour sa gloire. Je veux prier rapidement. Seigneur, nous te bénissons encore une fois de plus. Merci pour ta parole. Merci de nous avoir accueillis dans ta présence. Nous donnons à toi, Seigneur, ouvre le ciel dans nos familles, dans nos vies, dans nos travails, pour que nous puissions encore donner plus. Merci parce que tu es fidèle au nom de Jésus. Amen.
Amen.
On donne avec joie et on reçoit la couronne.
Je suis couvert par le sang de l'agneau. Amen.
Je suis couvert par le sang, je suis couvert.
Allô? Ok. Donc, nous allons prier et clôturer ce pasteur. Recevons la bénédiction de la part de notre Dieu. Seigneur, alors que nous clôturons ce culte, je voudrais déclarer sur ton peuple la vie. À la suite de ton serviteur, de cette parole qu'il a relâchée sur nous, je déclare la vie en abondance sur ton peuple et sur tous les membres de nos familles au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare également, Seigneur, que tu donnes à ton peuple la persévérance, la confiance, l'endurance, la foi de te faire confiance, Seigneur. Merci de te souvenir de toutes les requêtes qui sont dans nos cœurs et que toi tu connais. Merci de te souvenir du cœur avec lequel ton peuple est venu. Malgré ces requêtes, ils sont venus à toi et ils ont entendu cette parole. Seigneur, je prie que tu donnes à ton peuple un témoignage, plusieurs témoignages. Que tu leur donnes un signe que tu es avec eux. Quelle que soit la situation par laquelle ils passent, que tu es là. Et que la certitude de ta présence, la certitude que tu es au contrôle, au-delà des apparences, leur donne la paix et la joie. Une joie extraordinaire. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen.